Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois parler des migraines dans Priorité Santé, cette maladie à laquelle nous consacrons de nombreuses émissions. Alors pourquoi autant de questions sur ces maux de tête qui sont encore trop souvent traités avec une forme de mépris, évidemment, par ceux qui ne sont pas concernés. Parler des migraines parce qu'il s'agit de la maladie neurologique la plus fréquente, un motif de consultation prioritaire dans la prise en charge de la douleur et encore, comme l'évalue l'OMS, la pathologie la plus invalidante au monde chez les moins de 50 ans. Céphalées intenses, insomnie, nausées, se retrancher parfois dans le noir pour supporter la crise, absentéisme, isolement, les migraines perturbent également le lien social, la vie quotidienne et si elles sont fréquentes, il n'est pas pour autant simple d'en parler ni de trouver la prise en charge qui va permettre de s'extraire de cette spirale de la souffrance. Alors aujourd'hui, nous allons parler des traitements pour les crises comme au long cours, mais aussi aborder tout ce qui concerne la prévention et les habitudes de tous les jours, trouver les ressources pour s'informer, rechercher le soignant et la prise en charge adaptée pour ne pas se résoudre à subir. Un adulte sur cinq concerné par les migraines, nous en parlons à l'occasion du premier sommet francophone de la migraine qui s'est tenu le 11 septembre, un événement que vous avez organisé. Sabine de Brémecker, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes la présidente de l'association La Voix des Migraineux. Nous retrouvons en ligne du nord de la France le docteur Christian Lucas, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes neurologue chef de service du centre d'évaluation et du traitement de la douleur à l'hôpital Salingros du CHU de Lille, également président de la Société française d'études des migraines et céphalées. Tout à l'heure, on va donner la parole au docteur Seibou Hassan Diallo, neurologue au CHU Gabriel Touré de Bamako au Mali. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète, là encore à Bamako au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Migraine sévère, migraine chronique. Docteur Christian Lucas en précise systématiquement que la migraine n'est pas un mal de tête banal. Alors pour fixer les choses d'emblée, qu'est-ce qui permet de poser le diagnostic? Quelle manifestation précise?
Alors vous avez raison, tous les maux de tête ne sont pas des migraines puisqu'il y a une classification internationale des maux de tête qui fait 200 pages, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Donc la migraine, il y a donc une définition précise et un diagnostic précis qui repose sur des questions. Donc pour l'adulte, ce sont des maux de tête qui peuvent durer sans traitement efficace 4 à 72 heures. Ces maux de tête doivent avoir au moins deux des quatre symptômes suivants, ou des maux de tête plutôt d'un côté, mais ce n'est pas absolu. Dans 30% des cas, ça peut être bilatéral, donc la migraine est un faux ami. Donc des maux de tête d'intensité modérée à sévère, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un impact fonctionnel, les gens sont gênés. Il y a une tonalité souvent battante, pulsatile, comme un cœur dans la tête. Cela augmente aux efforts physiques, ça c'est pour les maux de tête, mais la migraine ne peut être réduite aux maux de tête. Il y a au moins un des deux signes d'accompagnement qui suit. Gêne au bruit et à la lumière pendant la crise, avec accentuation des douleurs à la lumière et au bruit. Et ou, troubles digestifs, nausées 25% des migraineux, vomissements 10%. Donc vous avez compris que c'est un algorithme avec des questions et l'examen clinique est bien sûr par définition normal. Et ça c'est pour la migraine de l'adulte. Pour l'enfant c'est un peu différent. Des crises plus courtes, une à 24 heures, avec des troubles digestifs au premier plan, une pâleur du visage au tout début de la crise et un effet thérapeutique du sommeil. Un enfant migraineux, si on le met couché, en général, en une demi-heure, ça passe, tandis qu'un adulte migraineux peut se coucher avec et se réveiller avec.
On a bien compris, beaucoup de signes, beaucoup de questions, mais pas forcément l'examen qui va faire, par exemple, une imagerie médicale qui va faire la lumière sur ce diagnostic.
Absolument pas. Les examens complémentaires dans une migraine typique ne servent à rien, si ce n'est à dépenser de l'argent au public ou au privé. Donc le diagnostic est purement clinique, des questions, encore des questions, et l'examen clinique est bien sûr par définition normal. Et pourquoi donc il y a beaucoup de mythes et de préjugés, on verra ensemble, mais la migraine est d'origine génétique, au moins 40 gènes à ce jour individualisés. Donc les examens complémentaires sont totalement inutiles dans une migraine typique.
Mais en tout cas, c'est normal qu'on fasse le rapprochement avec le mal de tête parce que c'est bien cette douleur, ce premier motif de consultation. Docteur Lucas, vous travaillez, vous, dans un centre spécialisé dans cette prise en charge de la douleur. Vous en êtes responsable à Lille. Qu'est-ce qu'il y a comme offre de soins, de consultation particulière dans ce type de structure?
Alors, donc, les centres d'évaluation et traitement de la douleur ne sont pas destinés à prendre en charge tous les patients douloureux chroniques et tous les migraineux, puisque vous l'avez dit vous-même, donc c'est un adulte sur cinq quasiment. Donc, l'interlocuteur de première ligne est et doit rester le médecin généraliste, normalement qui doit être formé, bien sûr, à la prise en charge des migraines. S'il est dans la difficulté au plan pas tellement diagnostique, mais plus thérapeutique, il doit référer à un neurologue, parce que les neurologues, dans leurs ultra spécialités, bien sûr, la prise en charge des céphalées, et bien évidemment, dans un monde idéal, ensuite, si les neurologues sont pris en défaut, les adresser à un centre de la douleur où il y a un expert migraineologue, puisque ce n'est pas le cas de tous les centres de la douleur. Dans la douleur chronique, ça concerne les douleurs neuropathiques, les fibromyalgies, etc. Donc on s'occupe de beaucoup, beaucoup de choses. Mais des centres experts de la migraine, il n'y en a pas tant que ça. Donc vous avez compris que il faut normalement avoir cette cascade médecin généraliste, neurologue libéral ou hospitalier à proximité, et puis ensuite le soin de donc troisième ligne.
Alors, décrire les douleurs, les conditions dans lesquelles elles surviennent. Sabine de Bremecker, les migraines, elles font partie de votre vie depuis votre enfance. Vous vous êtes engagée dans la vie associative avec cette voix des migraineux, une maladie fréquente. Son nom, on le sait, c'est passé dans le langage courant. Pourtant, il y a énormément de désinformation sur la migraine, beaucoup de préjugés, d'idées fausses. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Je l'explique parce que bien que la migraine ait été identifiée il y a plus de 2000 ans, les médecins sont encore trop peu formés. C'est principalement une maladie de femmes et ça, je pense que ce n'est pas anodin. Souvent, les femmes sont moins considérées. On pense qu'elles sont plus douillettes, qu'elle cherche des prétextes pour ne pas travailler, pour ne pas faire des choses. Et puis, le public confond ça avec un simple mal de tête et ils se disent, bon, moi, quand je vis ça, je prends un Doliprane et je travaille. Bon, toi, je vois pas pourquoi tu n'y arrives pas. Voilà.
Donc, on met finalement une certaine mauvaise volonté sur le migraineux. Est-ce que vous, d'une certaine manière, dans votre parcours de patiente, vous avez subi les conséquences de cette désinformation ?
Oui, effectivement. Moi, je dirais pas que c'est de la mauvaise volonté. Mm-hmm. C'est de la méconnaissance de la maladie et vous avez un rôle important là-dedans. Moi, j'ai eu de la chance. Je l'ai pas trop subi. Je l'ai subi à partir de mes 50 ans quand c'est devenu très sévère et chronique, ma forme elle est très grave. Et là j'ai rencontré un ou deux médecins qui voilà, dépassés, m'ont renvoyé vers la psychologue. Bon, j'ai eu la chance, je suis retombée sur un neurologue qui m'a bien prise en charge. Mais ça n'a pas toujours été facile. Mais jusqu'à mes 50 ans, bien que j'ai eu environ 8 jours de crise par mois, ça a été à peu près.
Et quand on vous répondait à certains moments de ce parcours précisément, Sabine de Bremecker, qu'il n'y avait vraiment rien à faire contre la douleur, comment on réagit à ce moment-là ?
Personnellement, déjà, je suis révoltée. J'ai été prise en charge par un algologue il y a 2 ans qui était révolté aussi. Et puis la conséquence en est que de nombreux abonnés de notre communauté il y en a 15% qui parlent de suicide et dernièrement, beaucoup pensent à l'euthanasie, même avec des enfants.
Souffrance intolérable, on entend bien. Docteur Christian Lucas, il y a deux choses. Il y a l'accueil, l'approche du médecin dans la façon dont il va échanger avec le patient qui est en souffrance. Et puis, il y a de l'autre côté tout ce qui est du domaine de la recherche, des nouveautés en termes d'évolution des traitements. Mais là, il y a aussi un point de blocage, c'est la disponibilité de ces traitements.
Alors donc moi je conforte ce qu'a dit Sabine. Quand j'étais jeune et chevelu, donc que j'avais passé le certificat de neurologie, la migraine ça faisait 10 lignes. Donc en clair, j'ai appris bien après en étant neurologue toute la complexité de cette maladie où il y a eu d'énormes évolutions physiopathologiques sur les 15 dernières années. Mais nombre de médecins, c'est pas qu'ils veulent pas soigner les patients, mais on ne soigne bien que ce qu'on connaît bien. Donc là c'est un gros problème. Ensuite effectivement grâce au progrès des mécanismes de la migraine, on a maintenant une vision très très claire au plan moléculaire de ce qui se passe, et il y a eu des traitements très innovants. Donc vous voulez parler par exemple des anticorps monoclonaux anti-CGRP qui sont une révolution thérapeutique dans le traitement de prévention des migraineux sévères. Ça s'adresse pas à tous les migraineux, hein, des patients qui ont moins 8 jours de migraine par mois et en échec d'au moins 2 traitements de fond traditionnels. Donc, eh bien, ces traitements sont disponibles dans la majorité des pays, et en Europe notamment, et 16 pays d'Europe le remboursent. Et la France, 5e puissance du monde, ne rembourse toujours pas ces traitements, et donc on est confronté à une médecine à 2 voire 3 vitesses, puisque il faut déjà avoir accès à un centre spécialisé. Et ensuite, il y a l'écueil de devoir payer ces traitements innovants qui, bien sûr, sont chers.
Alors, beaucoup de questions sur les migraines et les maux de tête de nos auditeurs. Sur Facebook, il y a Sam qui est en RDC qui explique qu'il a très souvent des maux de tête, en particulier quand il fait chaud, et il demande des explications, docteur Lucas.
Oui, alors dans les facteurs déclenchants environnementaux divers et variés, donc la pression atmosphérique peut être un facteur déclenchant, la chaleur est vasodilatatrice, et donc lors d'une crise de migraine, il y a un largage de protéines de l'inflammation au pourtour des artères méningées, des artères urinaires, et les artères se dilatent. Et bien évidemment, la chaleur dilate les artères, donc ça vous le savez tous, donc on comprend aisément que ça soit un facteur déclenchant potentiel.
Autre question de Farida du Burkina Faso. Après un choc à la tête à l'âge de 8 ans, elle ressent toujours à 22 ans des maux de tête tous les jours, hein, au niveau de la nuque, du front, en cas d'effort, quand elle est stressée. Et elle demande si justement ce type de choc peut expliquer ces maux de tête bien des années plus tard.
Alors là, c'est un peu subtil. Alors effectivement, une commotion cérébrale, même mineure, peut engendrer, mais chez quelqu'un de génétiquement prédisposé à... un tableau de migraine chronique, ça c'est tout à fait possible, ça existe et j'en vois et j'en ai vu. Donc, mais c'est un facteur, comment dire, de précipitation, de chronicisation de la pathologie, mais sur un terrain génétique prédisposé, puisque je le répète encore, la migraine est d'origine génétique, mais effectivement, commotion cérébrale et migraine des nouveaux, donc qui apparaissent après cette commotion, on en voit. C'est pas très commun, mais on en voit.
Alors, pour mieux comprendre les migraines, on prend tout de suite les auditeurs en ligne avec leurs questions. On commence avec un auditeur du Mali.
Priorité santé.
Priorité santé.
La santé, c'est une priorité.
Sur RFI.
Une auditrice, c'est vous, Fatoumata. Bonjour.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Caroline, hein, moi, mais c'est pas grave. Fatoumata, Caroline, oui. Fatoumata, oui. 47 ans, des migraines depuis l'adolescence. Décrivez-nous exactement de quel type de douleur vous souffrez aujourd'hui.
Alors, maintenant, c'est des douleurs du côté gauche de la tête. Voilà, quand ça commence souvent, c'est modéré à très fort. Donc, je pouvais rester toute une journée au lit.
Et voilà. Ça arrive à certaines périodes en particulier?
Oui, les périodes de grande chaleur, parce que comme vous le savez, il fait chaud au Mali.
Oui.
Voilà, et durant mon cycle, les périodes de grande fatigue ou de stress.
Et ça veut dire que quand vous êtes confronté à ces douleurs, vous restez coincé chez vous, vous ne pouvez plus bouger, c'est ça?
Non, je reste, je garde le lit souvent toute une journée, voilà, je peux rien faire, voilà.
C'est très pénible. Vous avez consulté un spécialiste?
Il n'y a pas longtemps, parce qu'il faut souligner que j'ai ces migraines depuis mes 14-15 ans.
Oui.
Moi, je pensais qu'en prenant du paracétamol ou du Doliprane, voilà, c'était le traitement. Mmh. Donc, il y a peu, j'ai consulté un neurologue. Voilà, lui, il m'a prescrit un traitement de fond, ce qui fait que je commence à aller mieux.
Vous êtes soulagée quand même maintenant?
Oui, beaucoup.
Et tout à l'heure, on parlait avec le docteur Lucas du caractère héréditaire, familial de ce type de douleur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, vous, dans votre petite famille?
Oui, dans ma famille, ma maman, elle m'a dit qu'elle l'avait. dans sa jeunesse, mais maintenant ça va parce qu'elle a 75 ans, elle dit que c'est fini depuis. Moi, je vois que j'ai deux, sur mes trois enfants, deux commencent à avoir la migraine. Et c'est ça mon inquiétude. Voilà.
Fille et garçon souffrent de migraine?
Fille et garçon, oui. Ma fille, la deuxième qui a 17 ans, elle a les migraines et c'est assez fort. Et le garçon, il a 13 ans.
Est-ce que vous les avez emmenés, ces enfants, voir un neurologue?
Non. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Je voulais savoir quel est l'âge idéal pour les amener consulter.
D'accord. Une question très intéressante qui peut concerner pas mal de parents auditeurs de l'émission. Docteur Christian Lucas, est-ce qu'on va dire qu'il y a un âge précis pour aller voir le neurologue ou dès qu'il y a un soupçon de migraine, il est conseillé, quand on en a les moyens, d'y aller?
Alors, dès qu'il y a un soupçon de migraine, donc le cas de cette patiente et de sa famille est très illustratrice. Hein. Donc, dès qu'il y a un cas de migraine chez des enfants, il faut consulter normalement son médecin généraliste, je répète, si tant est qu'il soit formé. Alors ensuite, donc il y a 5 à 10% des enfants sont migraineux. Tous, Dieu merci, n'ont pas des crises fréquentes et invalidantes. Si les crises sont très ponctuelles, il y a donc l'ibuprofène en suspension buvable qui peut être utilisé. Donc, mais si les crises se répètent, même chez des enfants, on a des enfants en migraine chronique, ça existe. Donc là, bien évidemment, là, il faut l'avis d'un neurologue puisque la qualité de vie de ces enfants et leur vie scolaire peut être entravée. Donc, vous avez compris que si c'est des crises épisodique avec une notion familiale, le médecin généraliste donc formé doit suffire. Si par contre ça entrave la vie avec la répétition des crises, là il faut l'avis d'un spécialiste.
Voilà pour la réponse à votre question. Merci beaucoup Fatoumata, très bonne journée à Bamako. On prend en ligne de Dakar Amadou. Amadou, bonjour.
Bonjour.
Alors vous appelez, vous Amadou, au sujet de votre épouse, pourquoi?
Oui, c'est ça. Bonjour et bonjour à tous. Donc, j'appelle pour le cas de ma femme, qui depuis plus de 25 ans, comme ça, souffre de migraines. Et on a eu à faire plusieurs analyses et tout, avec un généraliste au début, on a été voir à l'hôpital et tout. Après, on nous a redirigé vers un neurologue à l'hôpital femme aussi, qu'on a été voir, faire des IRM, faire des scanners et tout, mais qui n'ont rien révélé. Et toujours, ça persiste. Après, avec les traitements donnés aussi, quand même, on ne peut pas dire que ça marche parce que tout le temps aussi, il y a la maladie est récurrente. Donc, parfois, les douleurs, il y en a au moins 3 fois par semaine. Au moins, parfois, ça peut durer jusqu'à 10 heures d'affilée. Et parfois, pour que ça cesse, parfois, il faut qu'elle aille même jusqu'au vomissement pour que vraiment les douleurs cessent.
Amadou, j'ai une question. Quand votre épouse a pris le traitement donné par le neurologue, est-ce qu'elle prenait ce traitement uniquement quand elle avait mal ou est-ce qu'elle le prenait tous les jours régulièrement et même, on va dire, quand la crise était passée?
Ah non, quand elle avait mal. Voilà, c'est
bon. Que quand elle avait mal. Et le médecin, il avait dit quoi? Il avait dit de le prendre au long cours ou il avait dit de le prendre que quand il y avait des crises?
Le prendre au début des crises, comme ça. Bon, c'est ce qu'il avait dit au début. Au début, il avait dit de prendre ça au moins un peu régulièrement, au moins 2 semaines, voir si ça se calmait. C'est ce qu'elle a fait aussi. Mais comme il n'y avait pas trop de résultats. Donc après, quand ça a commencé à picoter un peu dans son oreille, c'est comme ça que ça s'annonçait.
Oui.
Donc, voilà.
Mais le médecin, il vous a expliqué, Amadou et à votre épouse, que c'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'il faut s'en occuper quand ça fait vraiment mal, mais aussi quand on est un petit peu au repos, il faut continuer à prendre des médicaments. Il vous l'a expliqué?
Oui, il nous a expliqué, oui. Il a bien expliqué, mais comme ça ne marchait pas aussi, elle n'a pas suffisant. Parce que elle a tout fait, parce qu'elle a bien dit, mais elle prenait aussi des médicaments tout au début et tout correctement, mais comme si il n'y avait pas trop de résultats, là aussi.
Et aujourd'hui, elle ne prend plus rien, votre épouse?
Ah non, un peu de migraine, des petites choses comme ça, hein, mais les traitements lourds, tout ça, là, elle a laissé de côté parce que si ça ne fait pas de résultats, voilà. Voilà, c'est ça.
Docteur Christian Lucas, là, Amadou nous décrit ce qu'on appelle une impasse thérapeutique. On a essayé quelque chose, ça ne marche pas forcément. Mais encore une fois, c'est essentiel d'insister sur ce que je décrivais, ce caractère chronique. On ne prend pas le médicament que quand on va très mal.
Oui, alors vous avez raison. Donc il y a deux types de situations. Les crises très épisodiques, un traitement de crise suffit. Des crises répétées, comme c'est le cas de l'épouse de ce monsieur, il faut un traitement de prévention. Alors attention, il faut préciser beaucoup de choses lors de la prescription d'un traitement de prévention. Un, ce n'est pas un vaccin. Le but est de réduire la fréquence des crises d'au moins la moitié et à l'échéance de 3 mois. Ça n'agit pas immédiatement.
Il faut du temps. Il faut du temps et de la patience.
Voilà. Et les traitements, 3 mois, parce qu'au-delà, si ça ne marche pas, il faut changer.
D'accord.
Il faut préciser aussi, on a beaucoup de traitements de fond et on n'a pas de boule de cristal pour savoir à quoi va répondre tel ou tel patient et s'il va y avoir des effets secondaires ou pas. Moi, par exemple, dans mes consultations, je mets des traitements de deuxième, troisième ligne en cas de soit d'inefficacité ou d'intolérance, d'accord? Mais le but, c'est de réduire d'au moins la moitié la fréquence des crises à l'échéance de 3 mois. Si ça ne marche pas, on change. Et à l'instar d'un asthmatique sévère, on va pas lui dire vous prenez de la ventoline tous les jours, etc. Donc, parce que ça peut aggraver les choses, il faut un traitement de prévention. Un migraineux sévère, 20-25% des migraineux, ont besoin d'un traitement de prévention. Et quand il marche, on le laisse en général au moins une année. Et après, on essaie de diminuer doucement les doses et d'arrêter puisque la migraine est fluctuante, capricieuse. Ce n'est pas pour toute la vie. Moi-même, je suis migraineux. J'ai pris trois fois, à certains moments, un traitement de fond, 3 fois 1 an. Et donc, l'âge est plutôt un facteur d'amélioration. C'est vrai qu'au-delà de 60 ans, seuls 10% des migraineux restent migraineux. Donc, c'est une maladie fluctuante. Après, il y a une minorité de patients qui ont une migraine active toute leur vie. Ça existe, hein, même au-delà de 60 ans. Mais il y a des choses vraiment importantes à préciser lors de la première consultation et notamment quand on délivre un traitement de prévention.
En tout cas, le conseil à donner à Madou, c'est que son épouse retourne consulter le neurologue.
Oui.
Pour pas qu'elle reste
en souffrance.
Et si le
traitement de fond initial n'a pas été efficace, eh bien, on en change.
Voilà, très bonne journée à Madou. Bon courage à votre épouse à Dakar. Je me tourne vers Sabine de Brémaker. On entend cette question de l'impasse thérapeutique, des questions sans réponse immédiate, du doute et de la douleur. On entend que c'est quelque chose qui arrive partout dans le monde.
Oh, effectivement, en France aussi. Je voulais revenir sur une des questions.
Oui.
Même en France, les enfants, c'est pas évident. Hein. Mm-hmm. Il y a un impact scolaire, mais il y a aussi le fait que bien souvent, les parents s'entendent dire qu'il n'y a pas de traitement pour les enfants. Et comme l'a souligné le docteur Lucas, il ne faut pas hésiter à consulter parce que c'est inadmissible que les enfants soient déscolarisés pour ça.
Et restent en souffrance. Sabine de Brémaker, docteur Lucas, on va vous retrouver, on va poursuivre cet échange et d'autres questions d'auditeurs, l'éclairage aussi du docteur Hassan Diallo, neurologue à Bamako au CHU Gabriel Touré. Ce sera juste après Gotan Project avec Santa Maria.
Aires.
Priorité Santé, on continue de parler des migraines, toujours en compagnie de nos deux invités, Sabine de Bremecker, présidente de l'association La Voix des Migraineux, toujours en ligne avec nous de Lille, le docteur Christian Lucas, neurologue chef de service du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Lille. Et une autre question tout de suite d'un auditeur en ligne de Goma, on retrouve Vincent. Vincent, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous avez vous aussi des maux de tête depuis 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, s'il vous plaît, Vincent?
Oui, les maux de tête que je souffre, c'est depuis que l'adolescence. Ça me commence du côté souvent droite, à côté de l'oreille.
Oui.
En fait, ça prend des deux côtés. Mais j'entends comme si les muscles gonflaient. La tête fait maintenant trop mal. Alors, quand j'étais adolescent, on me donnait toujours des médicaments paracétamol. Mmh. Et en fait, c'est quand je suis allé à l'université que ça s'est aggravé.
Quand vous lisiez, quand vous vous concentriez, ça faisait de plus en plus mal. Et en préparant l'émission, vous nous avez aussi indiqué que depuis un petit peu plus d'un an, vous avez un petit peu des crises d'épilepsie. Comment se manifestent ces crises?
Ces crises, bon, j'ai du mal à les décrire, hein,
ouais.
Puisque ça commence toujours la journée par maux de tête.
Ouais.
Et c'est quand je suis en sommeil que je me retrouve, que j'ai fait des crises, mais souvent je me retrouve à l'hôpital, on m'a amené à l'hôpital.
Vous avez perdu conscience, vous avez perdu connaissance?
Oui, ça va même dans les 24 heures, je suis sous moteur oxygène.
Oui, donc c'est vraiment des crises très graves que vous nous décrivez, Vincent. Est-ce que les médecins ont prononcé le nom d'une maladie, ont posé un diagnostic précis?
Bon, c'est en 2013, comme je disais, que le médecin m'a dit que je souffrais aussi d'estomac.
Oui, mais ça n'a peut-être pas de lien avec vos crises et d'épilepsie et de migraines. Hein. C'est peut-être autre chose.
Après les crises d'épilepsie, le médecin m'a demandé de faire l'examen des EEG. Je l'ai fait deux fois. D'abord, quand j'ai fait la crise pour la première fois,
oui.
Le médecin m'a dit qu'il ne voyait pas chose grave. Bon, j'habitais avec un médecin que je suis allé voir. Je lui ai montré les résultats de l'examen. Bon, il a été en contradiction avec le médecin qui me traitait. Elle lui a dit que l'épilepsie ne peut pas attraper quelqu'un qui a ton âge. Comment il t'a demandé de faire l'examen pareil? Bon, il a utilisé un terme que le médecin devait voir si c'est pas un lion qui ne fonctionnait pas. Bon, moi, j'ai pas compris. Quand j'ai eu la crise pour la deuxième fois, c'est là qu'on m'a demandé de refaire l'examen. Bon,
oui.
On m'a dit que il n'a rien vu. On m'a demandé de faire les scanners,
oui,
du cerveau. Ils ont dit que tout allait bien. Donc, l'examen, il n'y avait pas des anormales.
Donc, aujourd'hui, si on comprend, Vincent, vous attendez d'avoir un diagnostic. Vous n'avez toujours pas eu de diagnostic. Quand vous aviez consulté, c'était un neurologue à chaque fois, parce que de toute façon, c'est un neurologue qui prend en charge et les migraines et l'épilepsie. Est-ce que c'est bien ce spécialiste que vous avez pu voir à Goma?
Bon, à Goma, avant c'était les généralistes, j'étais,
ouais,
à l'hôpital général, c'était des généralistes.
Ouais.
Mais quand ils m'ont envoyé de faire l'examen de EEG,
ouais,
je suis allé au centre neuropsychiatrique et c'est là que j'ai passé l'examen.
D'accord. Donc vous attendez toujours un vrai diagnostic. Docteur Christian Lucas, on entend bien dans le cas de Vincent, il se retrouve quand même face à des crises très graves. Bien sûr, à distance, on ne peut pas poser de diagnostic. Mais comment faire pour qu'il puisse en savoir un peu plus sur ce dont il souffre précisément?
Alors, a priori, il n'y a aucun lien d'association. Hein. Donc, c'est deux maladies fréquentes. La migraine, c'est 12 à 21% des adultes, donc c'est énorme. L'épilepsie, c'est 1% de la population générale adulte. Donc, on sait que les associations peuvent exister, on peut être migraineux et épileptique, mais il n'y a pas de lien du tout de causalité dans un sens ou dans l'autre, absolument pas. D'après ce que j'ai compris, donc Vincent souffre de crises épileptiques cryptogénétiques avec convulsives nocturnes, donc d'épilepsie nocturne, ça arrive. Donc il faut bien sûr un traitement adapté pour l'épilepsie, et puis un traitement pour les migraines. Alors il y a des traitements antiépileptiques qui peuvent avoir des actions antimigraineuses. Hein, donc il y a au moins deux médicaments en ce sens. Mais a priori, il n'y a pas de lien entre ces crises d'épilepsie et sa maladie migraineuse. Et par ailleurs, je reviens sur les vomissements, donc les nausées ou les vomissements qui font partie du cortège qu'on trouve chez 25% des patients migraineux. Nous avons dans le cerveau un centre neuronal des nausées du vomissement, qui est un centre plutôt protecteur. Hein. Donc quand on était à l'aube de l'humanité, quand on mangeait des baies toxiques, on les vomissait pour ne pas mourir, ce centre est stimulé dès que l'organisme est agressé, que ce soit une infection, que ce soit un traitement médicamenteux, que ce soit une crise de migraine. Donc, les nausées et vomissements de la migraine sont induites par la stimulation du centre du vomissement dans le cerveau. Et ce n'est pas le tube digestif qui est malade.
Donc, il faut éviter absolument les confusions entre les différents symptômes. On remercie beaucoup, Vincent. Il nous reste peu de temps pour prendre Bertrand en ligne, mais on tenait quand même à entendre votre question. Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, des maux de tête tous les matins?
Oui, tout le matin.
Qu'est-ce qu'on vous a dit comme en consultation? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme explication?
Bon, en consultation, un médecin m'a conseillé de faire le scanner en 2019. Mm-hmm. Quand j'ai fait le scanner, on m'a fait savoir que c'est des sinusites chroniques.
Donc, pas des migraines? Ou des migraines associées à des sinusites?
Oui, avant, on me disait que c'est des fièvres typhoïdes. C'est commencé depuis 2008. J'ai toujours mal à la tête. Et les médecins m'ont prescrit des médicaments. Je prends chaque jour, mais il n'y a toujours pas de changement. Il y a un médecin qui m'a conseillé de faire le scanner pour voir le diagnostic.
Est-ce qu'on vous a aussi donné des conseils dans votre quotidien, dans vos habitudes, pour éviter d'avoir des crises?
Oui, on m'a demandé d'éviter les salles climatisées et de rester pas pendant plusieurs heures devant les ordinateurs.
Est-ce que ça marche?
Parfois ça marche, parfois aussi ça marche pas, mais je trouve que souvent ça m'aide quand même à éviter les migraines à chaque fois.
Alors Bertrand, la question à notre invité, au docteur Lucas, c'est quoi?
Ok, la question que je voulais poser, parce que le médecin m'a fait savoir, pour se débarrasser de ça, il faut une opération.
Pour la sinusite?
Pour la sinusite.
Oui, mais bien évidemment, vous imaginez, hein, on peut pas vraiment, Bertrand, à distance, dire faites-vous opérer ou pas. En tout cas, on va demander au docteur Christian Lucas si justement il y a des correspondances entre des sinusites chroniques et ces migraines.
Alors, ce dont souffre donc Bertrand, ce sont ce qu'on appelle céphalées chroniques quotidiennes avec surconsommation de paracétamol, puisque d'après ce que j'ai compris, Bertrand prend du paracétamol quasiment tous les jours. Mmh. Et donc la question est posée, c'est de savoir si au début il avait des maux de tête épisodiques qui avaient des caractéristiques véritables de crise de migraine, et si celles-ci ne sont pas chronicisées par le fait de prendre beaucoup de paracétamol.
C'est ce que vous expliquiez en début d'émission, hein, quand on en prend vraiment fréquemment du paracétamol, à la fin, la douleur s'installe.
Oui, la problématique dite dans les mythes et préjugés, le terme sinusite chronique, ça revient très souvent. Alors, une sinusite, ça peut donner donc mal à la tête, mais une sinusite aiguë, où là, on mouche sale, on a de la fièvre, donc on n'est pas bien, etc. En général, une sinusite chronique ne donne pas de maux de tête. Donc, on peut avoir, bien sûr, un mouchage un peu purulent, mais c'est les réchauffements aigus de sinusite aiguë qui peuvent donner des maux de tête, mais pas des sinusites chroniques. Donc là, je suis un peu dubitatif tout en étant précautionneux, puisqu'on est un petit peu à distance. Mais ce mythe de la sinusite chronique qui donnerait des migraines quotidiennes ou des maux de tête quotidiens, donc en réalité, souvent, ce sont des patients migraineux qui étaient en migraine épisodique, qui ont évolué vers un tableau de migraine chronique avec souvent surconsommation de médicaments antidouleurs, notamment le paracétamol, qui n'est pas ou peu efficace dans la migraine.
Donc Bertrand, le conseil, c'est d'aller consulter, voir un neurologue pour qu'il remette un petit peu tout ça à plat et trouve avec vous le bon cheminement thérapeutique. Sabine de Bremaker, on va partir dans un instant pour Bamako, mais c'est vrai que c'est essentiel d'apprendre bien à se connaître pour faire face aux douleurs de la migraine, par exemple identifier les facteurs déclenchants.
Tout à fait. Les neurologues ont constaté qu'il n'y a pas que ça qui induit les crises de migraine, mais c'est vrai que savoir les identifier est très important. par exemple, la lumière, les lieux bruyants. En tenant un carnet tous les jours, on peut plus facilement les identifier. Après, il y a le problème du fait que quand ils se cumulent, on ne peut pas tout éviter. Et puis, pour vivre sa vie sereinement, on ne peut pas non plus être angoissé en permanence de rencontrer un facteur déclenchant. C'est pas vivable. Donc, il faut trouver le juste milieu. Il faut identifier les facteurs déclenchants qu'on peut facilement éviter. Éviter de les cumuler, mais il faut se résigner à avoir quand même... Enfin, on aura quand même des migraines. Et quelquefois, moi, je prends le risque d'avoir une migraine pour pouvoir profiter d'un événement familial ou pour le premier sommet francophone de la douleur.
Pour éviter...
De la migraine.
De la migraine. Et pour éviter l'isolement, on va partir tout de suite pour le Mali.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Pour vous retrouver, docteur Sebou Hassan Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue au CHU Gabriel Touré à Bamako. On en a donné beaucoup de conseils à nos auditeurs d'aller voir un neurologue. Le docteur Lucas, notre invité, a évoqué à plusieurs reprises, on va dire, les abus, même si c'est involontaire, hein, pas question de dire aux auditeurs c'est pas bien ce que vous faites, etc. Non, mais il y a quand même des abus de l'automédication pour les migraines. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez dans votre pratique à Bamako?
Bonjour RFI et Priorité Santé. Effectivement, c'est quelque chose que nous constatons parce que il y a 3 ans de cela, nous avons mené une étude dirigée par le professeur Meiga sur une enquête CAP, la connaissance des médecins généralistes par rapport à la migraine. Mmh. Et on s'est rendu compte à ce niveau que c'est 69,9% des médecins généralistes qui ne connaissent pas très bien la migraine. Alors que c'est le rempart des soins dans notre pays, c'est le premier contact des malades avec les soins. Et donc, s'ils sont déjà mal pris en charge, ils ne sont pas satisfaits, et ça ouvre vraiment la porte à cette surconsommation des médicaments de façon abusive. Donc, nous sommes confrontés à ce problème d'utilisation massive d'antidouleurs pour vraiment des crises de migraine par les malades.
Et dans votre hôpital, le CHU Gabriel Touré aussi, ce sont davantage de femmes par rapport aux hommes qui consultent pour les migraines?
Tout à fait. La proportion des femmes est plus élevée que celle des hommes. Et la proportion des sujets jeunes 20-40 ans est encore plus élevée.
Est-ce qu'on vient vous voir après avoir souffert longtemps, après des symptômes prolongés, ou assez rapidement? Est-ce que d'une certaine manière, certains patients se disent les migraines, c'est pas si grave, c'est pas la peine d'aller au CHU ou au CHU?
Écoutez, il y a deux profils de malades. Il y a des malades qui consultent dès la première crise migraineuse et ils demandent à voir un neurologue. C'est vraiment une minorité de malades. Il y a parmi eux qui ont un parcours assez atypique, et puisque la migraine quand même si au départ les gens considèrent que n'est pas grave, mais c'est une maladie invalidante, et elle t'empêche de mener tes activités quotidiennes, mais au bout d'un certain nombre de temps, tu n'es plus rentable. Et donc c'est le cercle vicieux qui se crée, ils vont aller d'abord dans le recours traditionnel, et donc parfois ça, par le biais de la médecine traditionnelle qu'ils sont référés tardivement, avec comme on l'a vu avec Bertrand, des céphalées chroniques quotidiennes en rapport avec une surconsommation d'antalgique.
Et j'imagine, docteur, que vous aussi, il y a d'un côté l'ordonnance, on va dire, la liste des médicaments, mais aussi les habitudes de vie, le quotidien, pour retrouver les facteurs déclenchants et essayer, si possible, bien sûr, de les éviter, même si, comme nous le disait tout à l'heure Sabine de Bramaker, c'est pas toujours évident au quotidien.
Ah, tout à fait. Écoutez, pour une manœuvre qui doit être à son poste et qui a les crises de migraines qui vont être déclenchées par le bruit, ça va être difficile de lui dire de respecter à la lettre, de faire cette éviction. C'est un peu difficile.
C'est difficile. Bon, et on évoquait aussi tout à l'heure avec le docteur Lucas, y compris d'ailleurs dans un pays comme la France, des difficultés d'accéder à certains traitements les plus novateurs, les derniers traitements. On imagine que chez vous, au Mali, c'est le même problème, mais x10.
Absolument. Dans l'urgence, oui, on a les anti-inflammatoires, les antalgiques de premier et de deuxième niveau, les neuroleptiques, Mais tout ce qui est nouvelle génération de molécules, on l'a pas. Les triptans commencent à venir. Ils étaient chers parce que c'était des produits de spécialité. Ils commencent à rentrer dans des génériques, mais encore pas à la portée de toutes les bourses. Il y a un gros plaidoyer qui se fait actuellement puisque il y a l'assurance maladie universelle au Mali dont bénéficie encore une minorité parce que c'est des fonctionnaires ou des gens qui ont un revenu fixe à la fin de chaque mois. C'est pas tous les Maliens.
Bien sûr.
Donc, je pense que le gros du plaidoyer, c'est au niveau de l'industrie pharmaceutique pour que des molécules accessibles soient mises à la disposition des populations pour qu'on puisse améliorer vraiment leur état de santé.
Eh bien, s'ils nous écoutent, le message est passé. Et ce message, il est absolument essentiel pour la migraine, comme pour bon nombre de maladies. Et pendant qu'on en parle aussi, pour le vaccin, évidemment. On vous remercie beaucoup, docteur Sebou Hassan Diallo. Une très bonne journée à Bamako. On retrouvera d'ailleurs là-bas, dans quelques minutes, Stéphane Besançon. On va aller sur cet aspect des traitements innovants, docteur Christian Lucas, cette question de l'accès aux médicaments. Il y a aussi les conséquences économiques, parce que quand on est arrêté parce qu'on souffre de migraines, eh bien, c'est tout le système qui s'arrête, l'absentéisme. Il faudrait peut-être davantage penser en termes de prévention, parce que la prévention, ça permet aussi de faire des économies.
Alors là, vous touchez un point très sensible. Alors la migraine coûte à peu près en France 13 à 15 milliards d'euros par an, tout coût confondu. Et 80% des coûts sont liés à l'absentéisme et à la moindre productivité. Et donc, ce sont forcément les patients migraineux les plus sévères qui coûtent le plus cher, donc en termes d'absentéisme et de moindre productivité. Les nouveaux traitements dont on parle, moi j'avais fait un petit calcul, les anticorps monoclonaux anti-CGRP. Alors les anticorps monoclonaux, vous savez, on en a parlé beaucoup pour le Covid. Mm-hmm. Ça existe déjà depuis de très nombreuses années dans plein de pathologies, la spondylarthrite ankylosante, donc la sclérose en plaques, etc., etc. Et donc ça coûterait à peu près à la communauté 50 à 60 millions d'euros, mais en cascade, ça ferait économiser sans doute des centaines de millions d'euros, voire beaucoup plus. Donc, sauf que, vous savez comme moi, qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de fongibilité des enveloppes, c'est-à-dire que l'enveloppe du médicament n'est pas celle du remboursement des arrêts de travail. Les arrêts de travail, on sait que c'est énorme, le coût des arrêts de travail. Et donc là, c'est de la politique à la petite semaine, parce que en investissant quelques euros, si j'ose dire, on en gagnerait énormément, mais ça, je n'arrive toujours pas à comprendre.
C'est un changement de logique. C'est un changement de logique.
Ah, bien sûr, tout à fait.
Sabine de Bremaker, le mot de la fin, vous êtes patiente, vous êtes associative. S'il y a pour vous un message prioritaire à faire passer, et que vous avez d'ailleurs pu faire passer lors du rendez-vous que vous venez d'organiser, ce serait lequel? Il nous reste une trentaine de secondes.
Nous demandons au gouvernement le remboursement de ces traitements pour les 45 000 malades qui n'ont plus de vie, qui ne sont plus parents, qui n'occupent pratiquement plus un emploi, qui sont en dehors de la société et qui souffrent au quotidien.
C'est vraiment une demande qui remonte quand on contacte votre association.
Effectivement, il y a aussi l'inclusion dans l'emploi, il y a beaucoup de demandes à ce sujet, mais dernièrement, comme je vous le dis, il y a des personnes qui sont au bord du suicide, qui sont sans alternative thérapeutique, ayant tout essayé, leurs soignants aussi sont très démunis, et il est urgent de fournir ces
médicaments au plus grand nombre. Merci beaucoup. Avoir la migraine, on l'a bien compris, c'est pas un prétexte pour éviter une obligation. C'est encore moins un signe de faiblesse. On vous remercie tous les deux d'avoir participé à notre émission. Sabine de Bremaker et à vous, docteur Christian Lucas, en ligne de Lille. On va parler nutrition, équilibre, santé maintenant avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. On va parler d'un fruit tropical que tout le monde en fait a un peu l'impression de connaître, à la noix de coco, des produits qui en sont issus, comme la pulpe, l'eau, l'huile. Et Stéphane, on pense donc en savoir beaucoup sur ce fruit, mais en fait on a pas mal à apprendre. Tout d'abord, on reprend les bases, les fondamentaux si vous le voulez bien.
Alors, la noix de coco, c'est le fruit du cocotier, qui est une variété de palmier. Le cocotier est une plante qui peut mesurer jusqu'à 25 mètres de haut, une très grande plante, et c'est au sommet de ce palmier que l'on va retrouver une très grande quantité de très grandes feuilles qui ressemblent à des plumes, qui sont appelées les palmes. Et c'est entre ces grandes palmes que les fruits, les noix de coco, vont apparaître. Alors, la noix de coco est un fruit qui est ovale, volumineux, qui peut mesurer plus de 25 cm de diamètre et peser jusqu'à 1,5 kg. Le fruit est d'abord lisse, en général d'une couleur verte, puis en mûrissant, il se transforme progressivement et prend l'apparence familière qu'on connaît de la noix de coco avec une coque dure qui est entourée de fibres ligneuses brunes. Alors l'origine du cocotier n'est pas située avec précision. Pour certains, il provient de Malaisie, pour d'autres d'Inde, de Chine ou encore de Nouvelle-Zélande. Partant de ces zones, il a gagné l'Afrique de l'Est, puis il a été introduit par les explorateurs un peu partout en Afrique de l'Ouest, aux Caraïbes, et aujourd'hui on le retrouve présent dans toute la zone intertropicale humide. Alors deux parties de la noix de coco sont utilisées dans l'alimentation humaine, la pulpe blanchâtre du fruit, que l'on appelle aussi l'amande du fruit, et la partie liquide appelée l'eau de coco. Deux huiles sont aussi produites à partir de l'amande du fruit, l'huile de coco et l'huile de copra.
Et du côté des caractéristiques nutritionnelles de cette pulpe de coco, qu'est-ce que l'on peut dire, Stéphane ?
Alors la pulpe de la noix de coco, qui est aussi appelée l'amande de la noix de coco, peut être consommée fraîche ou séchée. L'amande fraîche a un apport calorique qui est assez important, qui se situe autour de 360 kcal pour 100 grammes. Cet apport calorique est important dû à sa teneur élevée en lipides, c'est-à-dire en graisse, notamment en graisse saturée. Elle contient par contre peu de glucides, c'est-à-dire de sucre, peu de protéines, mais par contre elle est riche en fibres avec un apport de 9 grammes pour 100 grammes, ce qui est très important. Elle est aussi une source très intéressante de vitamines et de minéraux. Elle apporte de la vitamine B, en particulier les B3, B5, B6 et B9. Elle apporte aussi des minéraux comme le fer, le phosphore, le magnésium et le potassium. Enfin, elle contient des oligo-éléments comme le manganèse, le cuivre ou encore le sélénium. L'amande peut aussi être consommée séchée. Comme l'amande fraîche contient 50% d'eau, l'amande séchée aura une valeur énergétique quasiment double, qui est due à la plus grande concentration des graisses. Il faut bien savoir ça, donc l'amande séchée est très calorique. Elle aura aussi une concentration plus forte du coup en protéines, en fibres, en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments.
Et maintenant, les différences de composition entre la pulpe et l'eau de coco.
Alors, l'eau de coco, c'est le liquide qui est contenu dans les noix de coco. C'est donc un jus de fruits naturel obtenu par extraction une fois que l'on a cassé cette noix de coco. Sa composition est très différente de celle de l'amande, car elle ne contient quasiment pas de graisse, elle contient également peu de glucides, de sucre et quasiment peu de protéines. Par contre, elle contient une grande quantité de minéraux, une quantité vraiment très intéressante, surtout du potassium et une quantité très intéressante d'oligo-éléments. L'eau de coco contient aussi des auxines et certaines enzymes bioactives qui lui confèrent des propriétés très intéressantes sur la digestion, mais aussi contre certaines infections bactériennes. Et sa composition lui confère aussi des propriétés très intéressantes en cas d'un important besoin de réhydratation, par exemple si l'on est malade ou si l'on est sportif.
Gros plan maintenant sur l'huile de coco, si vous le voulez bien. Stéphane, comment est-elle fabriquée ?
Alors, il y a deux huiles différentes qui sont obtenues à partir de la noix de coco. Il y a l'huile de coco vierge qui est obtenue en pressant à froid la pulpe blanche du fruit, et il y a l'huile de copra qui est une huile de coco raffinée obtenue par pressage à chaud de la pulpe blanche séchée. Les deux huiles ont une composition assez proche et sont composées quasiment d'acides gras saturés. L'huile de coco contient aussi les vitamines E et K qui sont détruites durant le processus de fabrication de l'huile de copra.
Et Stéphane, on va terminer par vos conseils de consommation pour ces différents produits.
Alors la pulpe de coco présente des propriétés nutritionnelles très intéressantes. C'est un fruit que l'on peut introduire dans son alimentation pour diversifier les fruits consommés. Cependant, son apport en graisse et en calories fait que le fruit frais doit être consommé avec modération et la forme séchée encore plus car elle contient deux fois plus de calories. Pour l'eau de coco, en suivant les recommandations d'un verre de jus de fruits par jour, un verre d'eau de coco par jour est un bon complément à notre consommation d'eau quotidienne. L'huile de coco et de copra n'apportent aucune plus-value excepté leurs propriétés pour une cuisson à haute, voire très haute température. Je recommande d'utiliser l'huile de coco uniquement pour les cuissons à la poêle. Pour les autres utilisations, il faut privilégier l'utilisation d'huile d'olive, de noix ou de colza.
Et merci beaucoup Stéphane Besançon, à très bientôt dans Priorité Santé. Votre émission qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise, Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Stephen Elsley et Laurence Snow. Demain, on va parler du paludisme. Beaucoup de questions. Quel impact la crise sanitaire a-t-elle pu avoir sur la prise en charge et la prévention du palud ? Où en sont les projets de vaccins ? À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.